commenteront l'actualité culturelle et artistique du jour.
Et puis, pour plonger dans la nuit et voyager plus loin, nous recevrons des hommes et des femmes sacrément intéressants. Faut nous laisser maintenant.
Oui, nous recevrons des gens d'ici et d'ailleurs, des grands reporters, des écrivains, des documentaristes, des comédiens, des anthropologues, des photographes, des dessinateurs, des volleyeurs, des conchyliculteurs, des éleveurs de concombres marins, des hockeyeurs sur gazon.
Alexandre, faudrait qu'on y aille maintenant.
Ouvert la nuit.
Du lundi au vendredi,
à partir de 21h.
Cette semaine, dans le Pont des Artistes, Isabelle Dordain reçoit.
C'est toi qui choisis, y a vraiment le choix.
Paul Person.
Où tu vas, je sais pas.
Claire de Namur. Et Balbino.
Quand j'étais petit, je voulais être Charles Bukowski.
Rendez-vous pour l'enregistrement de l'émission mercredi. À partir de 18h, devant la porte B de la Maison de Radio France. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter.
France Inter,
la différence.
Et c'est au tour de Daniel Mermet de prendre la parole avec la basse, si j'y suis.
Se réveiller en France un matin avec un Sénat qui a basculé à gauche. Il est des fist-fucking qui font énormément plaisir.
Salut Daniel et bonjour à tous les AMG. Alors, je suis très content ce matin parce que la gauche a pris le pouvoir au Sénat. J'espère qu'elle va pouvoir prendre le pouvoir aussi en 2012. C'est une belle défaite quand même pour M. Sarkozy. Une belle défaite et ça démontre que la France restera une valeur démocratique. Voilà, une grande valeur de liberté aussi. À bientôt, ciao.
J'ai même entendu à la radio que au Sénat, ça avait basculé à gauche. Hein, le Sénat a basculé à gauche. Alors moi, j'ai un petit peu surpris parce que je m'aperçois qu'au Sénat, il y a UMP et socialistes. Je ne vois en aucune manière des représentants de la gauche. Voilà. C'était Jean-Yves de Meillac. Merci.
Salut les AMG, salut Daniel. Bon, vous avez entendu, je pense, concernant la loi sur le port du voile intégral de la burqa. Ça y est, la première condamnation a eu lieu à la suite donc de ces millions de femmes qui défilent dans nos rues avec des burqas et qui menacent notre démocratie. La première condamnation. Et devinez où ? Eh bien, à Meaux. Et Meaux, c'est la ville de Jean-François Copé. Eh oui, à Meaux. Elle n'est pas belle, la vie. Le hasard fait pas bien les choses, peut-être. Alors, on attend avec impatience, bien sûr, de voir comment il va réussir à nous refourguer son débat bien pourri et bien FN sur l'identité nationale. Et je pense, d'ailleurs, que la première réunion concernant l'identité nationale aura lieu à Meaux, la ville de Jean-François Copé. Ah là 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 là. Misérable. C'était Frédéric à Amiens.
Samedi 24 septembre 2011. Il y a un pote qui vient de m'appeler là. On ne s'est pas vu depuis longtemps. Depuis 2 ans, je crois. Et puis il m'a appelé parce que il m'entend plus sur le répondeur. Alors il voulait avoir de mes nouvelles. C'est marrant, il y a des gens que je ne vois pas, mais qui ont de mes nouvelles par le répondeur. Et alors là, donc, comme j'ai plus de message, il était inquiet. Et nous avons parlé du monde misérable dans lequel nous vivons. Puis on se ressemble un peu, c'est-à-dire on a ce côté d'être des inadaptés, au fond. Des inadaptés qui refusent de s'adapter. Parce que s'adapter, c'est finalement se compromettre, quoi. On a beau dire. Et puis voilà, on a parlé un petit moment. Et après avoir raccroché, je me disais, voilà, il ne faut pas céder. Et puis brusquement, j'ai entendu que ça pouvait s'écrire autrement. Alors, je me suis dit, il ne faut pas céder, il faut céder. Il ne faut pas céder, C-E-D-E-R, il faut céder, S-A-I-D-E-R. Je me suis dit, tiens, c'est sympa ça. Voilà. Réfractaire, mais solidaire. La solution passe par là, je pense. Allez, à plus.
Merci pour tous ces messages qui me parviennent ici à Rafa. Rafa qui est au sud de Gaza, la frontière avec l'Égypte, à Rafah, où il se passe énormément de choses. Un millier de tunnels creusés entre la bande de Gaza, la ville de Rafah et l'Égypte, et chaque jour, des centaines et milliers de tonnes de marchandises de toutes sortes qui transitent à cet endroit. Et puis, une visite au zoo de Rafah. Figurez-vous qu'il y a un zoo à Rafah et nous sommes allés voir ces animaux dans des cages, regardés par une population, des visiteurs en cage eux-mêmes dans Gaza. Tout ça est intéressant, tout ça est passionnant, mais on s'est trompé d'endroit. C'est pas là où les choses se passent aujourd'hui. Là où ça chauffe, là où ça claque, là où ça pète, c'est à Paris, c'est au Sénat. Et vos messages le disent très bien. C'est là et dans les conséquences, et les suites de l'affaire Karachi. Or, cette affaire, nous en avions parlé l'an passé avec François Ruffin, qui avait fait un reportage à ce sujet. Pourquoi ? Parce que on suit ces histoires, mais on oublie toujours le début. Il y a toujours ceux, et moi-même j'en fais souvent partie, de ceux qui ont loupé le début, qui ont oublié comment tout cela a commencé. Alors, vous avez présenté deux émissions, deux ou trois, je crois, qui s'appelaient Karachi Gate, l'affaire Karachi expliquée à ma mère. Et c'est François Ruffin qui avait mené cette enquête. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris le début, cette heure va être très précieuse. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base, j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Salut, c'est le 7e jour de grève de la faim pour les copains de Frangy qui luttent pour le maintien de leur usine. Ils sont devant le siège de la Farge Ciment à Saint-Cloud. Et même la direction réprimande fortement tout le personnel du siège qui viendrait soutenir les grévistes. Elle a même changé d'accès pour éviter les contacts entre le personnel et les grévistes. Voilà pour le climat social. Ouais, si tu pouvais nous faire traîner un micro par là, la Farge n'aime pas du tout les médias quand ils ne maîtrisent pas l'info. A plus, Claude.
Bonjour à toutes et à toutes. Il y a un an, 60 faucheurs et faucheuses volontaires arrachaient l'essai de vigne OGM de l'INRA de Colmar. Les 28, 29 et 30 septembre, nous serons en procès dans la ville du même nom. Pour nous, c'est tout à la fois un événement grave et positif, car durant 3 jours, nous allons pouvoir exprimer et développer à la barre ce qui fait cruellement défaut dans les choix et les orientations de la recherche agronomique publique, à savoir le débat social. L'occasion de réaffirmer aussi notre opposition radicale à une technologie qui sème la désolation environnementale et sociale. Il suffit d'ouvrir les yeux autour de nous sur cette planète pour s'en rendre compte. Nous vous espérons nombreux au cours de ce procès parce qu'il est essentiel à la respiration de la science et de la démocratie. Sur place, pour celles et ceux qui seront à l'extérieur du tribunal, conférences et animations sont prévues, Ramdam en tout genre bienvenue. Renseignements sur www.soutiencolmartoutattaché.onlc.fr. A très bientôt, c'est Étienne à Angers.
La destruction de l'école se poursuit. Elle se fait même dépouiller en ce moment. Depuis 4 ans, c'est 52 000 postes qui ont été supprimés. 16 000 le seront à la rentrée prochaine si on n'agit pas. La disparition de la formation des enseignants, la multiplication des contrats ultra précaires, des programmes totalement décalés face aux ambitions d'égalité pour l'ensemble des élèves. Alors demain, on sera en grève. On sera nombreux en manifestation. À Paris, à partir de 14h30, au départ de Luxembourg. Et on espère qu'on sera très nombreux.
Qu'est-ce que j'apprends ? Règlement de compte à Marseille, un mort. Mais que fait le nouveau préfet ? Qui remplaçait le nouveau préfet ? Qui remplaçait le nouveau préfet ? Qui remplaçait l'ancien préfet ? Peut-être faudrait-il le remplacer, ce préfet. Mais peut-être que Nicolas Sarkozy a autre chose à faire aujourd'hui.
Avec lenteur, l'arrière-train de la femme d'un sénateur, si tu lui mets la main, fais-le avec lenteur. Salut.
France 3.
L'ombre d'une affaire d'État plane de plus en plus.
28 août 2009.
Sur l'attentat de Karachi.
Ce qui fait de cette affaire une affaire ou une affaire d'État, c'est l'attentat. L'attentat de Karachi.
8 mai 2002, 11 employés de la direction des constructions navales sont tués dans l'explosion de leur bus. Un acte longtemps attribué à Al-Qaïda, mais jamais revendiqué.
Jusqu'au sommet de l'État,
jusqu'à Édouard Balladur, apparemment jusqu'à Nicolas Sarkozy, jusqu'à François Léotard. On insiste très fort pour que ce contrat soit signé avec les Pakistanais.
Il pourrait en fait s'agir d'un acte de représailles de militaires pakistanais à cause de l'arrêt du versement de commissions pour l'achat de 3 sous-marins.
Charles Millon n'est pas réputé pour être un plaisantin ou pour être quelqu'un qui parle à la légère. Il nous a rapporté quand même une phrase assez forte en nous disant que dans ces affaires-là, on pouvait prendre une balle dans la tête.
Des commissions prévues lors d'un contrat signé en septembre 1994, alors qu'Édouard Balladur est Premier ministre.
Il y a eu aussi le Nicolas Sarkozy des années 90 qui s'occupait de la campagne d'Édouard Balladur, qui en tant que ministre du budget donc validait des contrats, on va dire pour le moins suspects. Et il est évident que c'est ce qui embarrasse Nicolas Sarkozy dans cette affaire, c'est que son passé en quelque sorte lui revienne un peu à la figure.
Enfin, écoutez, c'est ridicule. Franchement, c'est ridicule.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis avec François Ruffin, Karachi Gate.
Franchement, c'est ridicule.
Flight number 2, arriving.
Avec les mouettes qui tournent dans le ciel, là. On est à Cherbourg, avec en face de nous les restes des fortifications. Derrière nous, on est passé devant l'arsenal, donc on est au bout de ce bras de terre qui, en Normandie, trempe dans la Manche. Et cette ville-là de Cherbourg, où on se trouve, où on est, on y est parce qu'elle est reliée à une autre ville à l'autre bout du monde, une ville dont on n'aurait pas entendu parler à Cherbourg et ailleurs en France s'il n'y avait pas eu un attentat, l'attentat de Karachi le 8 mai 2002. Donc ces deux villes qui sont reliées par, on va dire, par la douleur, par le sang, puisqu'il y a eu 14 victimes, dont 11 Français dans cet attentat le 8 mai 2002. Et c'est un lien, le lien entre ces deux villes, le lien entre Karachi et Cherbourg. C'est un lien qui passe, on va le voir, par des cabinets ministériels, par des officines discrètes, par des comptes dans des banques offshore, par les cabinets d'instruction. Et on va essayer de reconstituer ce puzzle, essayer de comprendre cette histoire du début à la fin, essayer de faire le lien entre 1994, la signature du contrat pour 3 sous-marins au Pakistan, et l'attentat de 2002, puis aujourd'hui 2010. Ce que je te propose, c'est un peu l'affaire Karachi expliquée à ma mère, parce que on a tout par petits bouts. On a un peu de Sarkozy, du Millon, du Léotard, du Balladur, du Chirac, du Ben Laden. Il y a une salade et puis on comprend pas très bien quels sont les liens entre tout ça. On a tout par bribes. Donc voilà, j'ai essayé de lui expliquer en 5 minutes à ma mère. J'ai essayé de lui expliquer le lien entre tout ça, ce qui s'est passé en 94, la campagne de Balladur, la signature de ses contrats, de Sawari 2, l'Arabie Saoudite, ensuite l'instruction du juge Bruguière. J'ai essayé de lui expliquer tout ça, mais en 5 minutes, c'est pas facile. Donc on va prendre une heure, on va peut-être prendre 2 heures. Pour aller l'affaire de Karachi expliquer à ma mère.
Il se pourrait bien que, pour certains, la politique consiste à mentir au peuple, à tromper l'électeur, à l'embobiner, à l'abuser par tous les moyens possibles de la communication, comme on dit. Ça n'a rien de nouveau. Le pouvoir ne fait pas ce qu'il dit et ne dit pas ce qu'il fait. On connaît depuis très longtemps cette maxime. C'est pas pour autant qu'on s'y habitue. Édouard Herriot disait « La politique, c'est comme l'andouillette. Il faut que ça sente un peu la merde, mais pas trop. » Pas trop, disait-il. Il se pourrait bien qu'il y ait un peu trop de cette odeur dans l'affaire qui nous intéresse aujourd'hui, l'affaire qui met le président de la République au centre, au moins dans le livre de Fabrice Arfi, de Fabrice Lhomme, qui s'intitule « Le contrat, Karachi, l'affaire que Sarkozy voudrait oublier », qui nous a servi, qui a servi à François Ruffin comme base de ce reportage et de ce travail d'enquête. Un très bon bouquin qui honore un peu ce métier, qui en l'occurrence n'a pas brillé par sa pugnacité et par son goût du contre-pouvoir, car face à cette obscurité, cette opacité, cette fumée que ce pouvoir développe, eh bien il faut des contre-pouvoirs. Ces contre-pouvoirs, ils sont notre métier, le journalisme, ils sont la justice, ils sont aussi, on va le voir, les familles des victimes qui veulent la vérité. C'est une histoire complexe, effectivement, et François Ruffin a décidé de la raconter à sa mère, et j'espère à tous, on va prendre le temps de raconter cette histoire pour ceux qui ont raté le début ou qui n'apprennent les choses que par fragments. C'est jusqu'à 16h, c'est là-bas si j'y suis, Karachi Gate.
Ce matin, des employés de la direction des constructions navales, la DCN, s'apprêtent à quitter leur hôtel de Karachi.
TF1, 8 mai 2002.
Comme chaque matin, ils se rendent au chantier naval où ils travaillent sur la construction de sous-marins pakistanais. Soudain, une déflagration. Premier bilan, 14 morts, dont au moins 10 Français. Les blessés, une vingtaine, sont pour certains dans un état critique.
On va passer derrière le Lidl. On va aller chez Monsieur Gilles Sanson, qui est l'un des blessés de l'attentat de Karachi, qui se trouvait dans le car au moment où une voiture a explosé. François Ruffin de...
Compris. Merci.
Voilà, on est chez Gilles de Sanson. François Ruffin vient de le dire. Gilles Sanson est un des survivants de l'attentat de Karachi. Il était dans le bus. Il était à l'époque usineur à la DCN, à la Direction des Constructions Navales, et il témoigne.
Donc c'était ma quatrième mission en fait à Karachi, et j'avais donc pour mission de travailler à l'usinage des tubes lance-torpilles sur les sous-marins Agusta 90B pour le Pakistan.
Est-ce que vous avez un souvenir du 8 mai 2002 ?
On a pris le bus comme tous les matins, sans soupçon particulier. En fait, l'hébergement des personnels se faisait sur deux hôtels à Karachi. l'Avary Tower, qui était l'hôtel où j'étais, et aussi le Sheraton, où a eu lieu l'attentat. Donc, dans un premier temps, le bus est venu chercher à 7h30 une grande partie du personnel, puisque 17 ou 18 personnes, je crois, ont dû monter à l'Avary Tower, et puis 6 personnes supplémentaires ou 5 au Sheraton. Voilà, donc c'est à ce moment-là où le bus s'est arrêté, que le kamikaze s'est rapproché du bus et l'explosion est intervenue, quoi.
C'est une voiture qui s'est accolée au bus, et c'est cette voiture qui était piégée.
Oui, une explosion. Enfin, c'est indescriptible, hein. Aujourd'hui, les spécialistes de la police scientifique de Paris qui se sont déplacés sur les lieux estiment la charge d'explosifs à 60 kg équivalent TNT placée dans la malle du véhicule, quoi. Par la puissance de l'explosion, il y a un souffle énorme, hein, qui vient frapper en fait le plancher du bus. Hein, et c'est cette onde de choc qui est répercutée sur les articulations et qui casse les os dans un premier temps, mais aussi qui détruisent des cartilages. Comment décrire ? J'ai eu le sentiment que ma tête avait triplé de volume. Et puis, bon, très très rapidement, je m'aperçois que mon bras est cassé, mes pieds sont en train de gonfler à vue d'œil. Et puis, bon, c'est l'horreur autour de moi, quoi. Une grosse odeur de brûlé, l'impression que tout va s'enflammer. Et puis, il faut sortir du bus. Donc, je décide de sortir du bus. Mais pas sur mes pieds, en rampant. Et puis, je me retrouve dans le milieu de la rue, en attendant que les secours arrivent. Ça n'a pas été très long, quoi, en fait, hein. Alors, la première ambulance qui arrive, en fait, s'arrête face à moi, puisque moi, j'ai pu sortir du bus en rampant. Je pensais être le seul à être sorti du bus, d'ailleurs. Donc, elle prend en charge une mendiante qui était aux abords du bus, qui n'était pas dans le bus. Hein. Une mendiante qui était là, couramment, aux abords du Sheraton, à mendier, quoi. Et donc, cette mendiante qui était décédée est prise en charge par cette première ambulance qui arrive. Et puis, il n'y a qu'un brancard, hein, dans cette ambulance. Hein. Donc, moi, je suis chargé aussi dans l'ambulance... à côté de la mendiante, quoi, assis par terre, hein, où je remets, durant le transport, le bras de cette pauvre femme qui tombe sur moi. Enfin, bon, c'est un peu dur. Alors là, on est transféré vers Gina Hospital. Les ambulances arrivent, en fait, hein, les unes après les autres. On est tous mis dans une pièce commune, hein, en fait, hein, où on, dans ces pays-là, on gère pas l'urgence comme dans les hôpitaux français, où on sépare les morts des blessés. Hein. Tout le monde est dans une pièce commune, voilà. Donc je vois arriver de nombreux copains qui sont recouverts d'un drap blanc taché de sang. Enfin, voilà. Et puis mes collègues blessés aussi, bien évidemment, hein, pour certains conscients, d'autres qu'ils ne sont pas. Et puis beaucoup de panique, surtout. Hein.
La voiture a été aussi piégée très vite, en une nuit.
France 5, 10 mai 2002.
Cet élément-là, associé à l'analyse du mode opératoire, de la planification longue et rigoureuse qui a été faite, des repérages, des informations confidentielles dont disposait vraisemblablement le réseau pour cibler précisément les Français, et puis au final l'exécution implacable avec une opération kamikaze et une voiture piégée, tout cela fait penser aux enquêteurs, notamment à ceux qui sont présents sur le terrain, DST, FBI, service pakistanais, qu'il s'agit bien de la main d'Al-Qaïda, qu'un réseau lié à Al-Qaïda, oui, est derrière cet attentat.
Dès votre retour en France, la thèse qui est avancée, c'est que c'est Al-Qaïda.
On est quand même 6 mois après le 11 septembre. Hein. Voilà, il faut savoir que la France est aussi engagée en Afghanistan. Le porte-avions Charles de Gaulle venait de passer quelque temps au large de Karachi. Hein. Et les avions français aussi avaient été amenés à bombarder le territoire afghan. Hein. Donc évidemment... nous, on n'est pas surpris quand on nous annonce en 2002, je dis bien en 2002, cette hypothèse d'un, quoi. Aujourd'hui, ne tient absolument plus. Hein.
Au bout de plusieurs années, qu'est-ce qui fait que vous voyez les choses autrement ?
Le tournant de l'affaire de Karachi, en fait, intervient au courant de l'année 2008. Hein. Au départ, en fait, c'est une perquisition de la brigade financière au siège de DCNS, hein, pour une affaire de corruption qui n'avait rien à voir, en fait, avec Karachi. Hein. Et donc, au cours de cette perquisition de la brigade financière, un certain nombre de documents sont saisis. Et entre autres, dans les documents qui ont été saisis dans le bureau de Gérard-Philippe Menayas, directeur financier administratif de DCNII, on retrouve les fameux documents dits Nautilus. Hein. Et donc, à la lecture de ces documents, les juges ont fait le rapprochement, en fait, avec l'affaire de Karachi. Hein.
C'est-à-dire que le point de départ de l'enquête, le second point de départ de l'enquête, au fond, est extérieur... à l'attentat de Karachi, c'est une affaire de corruption de la direction des constructions navales. Il y a une perquisition qui se déroule là-bas, et là, on en sort ce qui est appelé le rapport Nautilus. Vous l'avez lu, le rapport Nautilus ?
Des CNS avaient en fait embauché dans les jours qui ont suivi l'attentat une officine qui était dirigée en fait par Claude Thévenet, un ancien de la DST. Hein. C'est une personne qui a passé 15 ans à la DST, à l'antiterrorisme.
La direction des constructions navales missionne un ancien agent des services secrets, mmh. Claude Thévenet, pour savoir un peu ce qui s'est passé à Karachi, dans l'attentat de Karachi. Et M. Claude Thévenet rend un rapport dont je vais lire quelques lignes. Après de nombreux contacts, tant en Europe qu'au Pakistan, nous parvenons à la conclusion que l'attentat de Karachi du 8 mai 2002 a été réalisé grâce à des complicités au sein de l'armée et au sein des bureaux de soutien aux guérillas islamistes de l'ISI. Les personnalités militaires ayant instrumentalisé le groupe islamiste poursuivaient un but financier. Il s'agissait d'obtenir le versement de commissions non honorées lors de la signature du contrat de septembre 1994. C'est-à-dire que là, M. Thévenet avance, parce que c'est juste une thèse, oui. C'est pas non plus une parole d'évangile.
Il faut savoir que Claude Thévenet a quand même aussi des contacts, hein, puisqu'il a travaillé, comme je le disais, à l'antiterrorisme et dans les services français. Et Claude Thévenet, tout simplement, se rapproche d'un ancien du MI6.
Des services secrets britanniques.
Britanniques, oui, voilà. Et aussi, il a une source libanaise qui l'informe bien, qui rapidement amène à ses conclusions.
Il faut se rappeler que ce premier rapport Nautilus est amené le 26 juin 2002. Donc, c'est-à-dire que dès les semaines qui suivent l'attentat, d'après Claude Thévenet, d'après cet ancien des services secrets, lui avance une autre piste que l'attentat islamiste. Il dit, c'est sans doute lié à une affaire de commission non versée. Et ça, c'est pas en 2008. On en a connaissance en 2008, mais ce rapport est rendu à la direction des constructions navales dès les semaines qui suivent. Oui. Donc, ça veut dire que dès les semaines qui suivent, au sommet de l'État, au sommet de la DCN, de la Direction des Constructions Navales, ils savent que c'est possible que ça soit une histoire de commission. Et pendant 6 ans, personne ne dit rien.
Voilà, vous avez tout dit, je crois. La colère des victimes, elle est là. On est comme dans une affaire extrêmement grave, avec 11 morts, 12 blessés graves, enfin quelque chose de dramatique, quoi. Et on voit que DCN a en sa possession un document qu'elle ne remet pas à la justice. Pourquoi ? Entreprise 100% étatique à l'époque, 100% étatique au moment où elle a connaissance du document de Nautilus. Donc ça renforce la conviction, ma conviction toujours, qu'on nous a caché quelque chose. Vous savez, oui, dans l'attentat de Karachi, j'ai jamais rien lâché, quoi. Et je lâcherai jamais, voilà. J'ai vu mourir certains de mes collègues, voilà, j'en ai beaucoup souffert. Essayez d'imaginer un petit peu en 2008, quand on m'a appris que ce document de Nautilus a été saisi au siège de l'entreprise qui m'emploie encore aujourd'hui et qui m'a caché ce document. Moi, je suis citoyen français et je pense que j'ai toujours été derrière mon drapeau, quoi. Je veux dire, je suis quelqu'un qui a un peu la chair de poule quand j'entends la Marseillaise. Aujourd'hui, ben, ça devient difficile parce que l'État français m'a quand même trahi, hein. Mon entreprise m'a aussi trahi, voilà. Il y a quand même 11 morts, 12 blessés graves dont je fais partie. J'avais le droit, en tant que citoyen français, d'avoir des explications sur les raisons. Pourquoi j'ai passé 6 mois dans un fauteuil roulant? Pourquoi j'ai été blessé à Karachi? Pourquoi mes copains sont pas revenus? Voilà, on était à Karachi pour porter les couleurs de la France. Pourquoi ne pas avoir donné ces documents qui étaient aussi sensibles, hein? Quand on garde en secret des documents aussi importants aussi longtemps, hein, c'est probablement la réponse de l'attentat de Karachi.
Changement de cap dans l'enquête sur l'attentat de Karachi qui avait fait 11 victimes françaises en 2002, des employés de la direction des chantiers navals.
France 3, 18 juin 2009.
La justice française abandonne maintenant la piste islamiste et travaille désormais sur l'hypothèse d'un attentat commandité par des militaires pakistanais dans une affaire complexe de vente d'armes impliquant la France. Un dossier qui devient donc sensible politiquement. Anne-Charline Lambard.
C'était il y a 7 ans. 14 morts, dont 11 ingénieurs français de la DCN. Très vite, l'ombre d'Al-Qaïda plane sur l'enquête. Et aujourd'hui, devant les familles des victimes, les juges antiterroristes font volte-face. L'attentat de Karachi serait une vengeance d'agents pakistanais en raison du non-versement par la France de commissions occultes.
La vérité, une notion absolue qui n'engage que celui qui l'émet. Un mensonge à l'envers, un secret difficile à garder.
La vérité,
peut-être subversif si l'on accorde encore un sens à ce mot.
La vérité,
ne se trouve pas dans une chanson qui passe à la radio.
La vérité,
une idée abstraite à appliquer au quotidien. Un mot de passe dans une bouteille à la mer, roulette russe, pistolet à eau. La vérité apparaît toujours comme une évidence, un coup de fouet dans le dos. La vérité pousse au cul, la vérité pousse. La vérité est en marche, la vérité, la vérité, la vérité est en marche. La vérité, la vérité, la vérité est en marche. La vérité écrase tout sur son passage, cynique, second degré, n'épargne aucune tranche d'âge. Il n'y a rien de plus vague, de plus imprécis
que la vérité.
Il n'y a rien de plus improbable, de plus éculé
que la vérité.
D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelque chose, une direction droit devant. Ça veut dire quelque chose, une direction droit devant. Une direction droit devant, droit devant. La vérité est en marche. La vérité, la vérité, la vérité est en marche. La vérité, la vérité, la vérité est en marche. La vérité, la vérité, la vérité est en marche. La vérité, la vérité. Une direction droit devant, ça veut dire quelque chose. Une direction droit devant, une direction droit devant, droit devant. La vérité est en marche. La vérité, la vérité, la vérité est en marche. La vérité, la vérité, la vérité est en marche. La vérité, la vérité, la vérité est en marche. La vérité, la vérité.
On se retrouve là derrière, derrière le palais de justice, sur une petite place, juste derrière le palais de justice de Paris. Et donc c'est de cette institution, du palais de justice, que vous attendez
Qu'on attend simplement que... Enfin, on n'attend pas, puisqu'il le fait déjà, que le juge Trévidique fasse son travail, qu'il le fasse correctement. Et ce qu'on attend surtout, c'est que cet homme qui travaille au palais de justice sur notre dossier puisse avoir les moyens de travailler réellement. Et puis, si un jour on a un procès aux assises, ce sera évidemment l'aboutissement de tout ça.
Voilà, Magali Drouet et Sandrine Leclerc viennent de publier un bouquin, on nous appelle les Karachis, donc deux filles des victimes de l'attentat de Karachi, qui témoignent et qui se battent. Magali Drouet et Sandrine Leclerc ne votent plus depuis 2002. Pourquoi ? Ce n'est pas forcément un exemple à suivre, mais je ne peux pas prendre le risque de soutenir une personnalité qui pourrait être impliquée dans la mort de mon père, explique Sandrine Leclerc. Et nous y voilà cette méfiance, cette défiance face à la politique, face au monde politique, face à l'oligarchie politique, cette défiance. Alors que, voilà, le principe général, c'est que nous sommes des électeurs, nous sommes des citoyens, et ces messieurs et dames sont là pour nous représenter. Je parle d'une manière très naïve, mais face à cette magouille, à ces obscurités, à ces mensonges, à ces dissimulations, il n'y a qu'avec des arguments comme ceux-là qu'on peut se sentir motivé pour lutter. Ces deux femmes ont d'autres motivations qui sont évidemment la mort de leur père.
Là, on est ici à Paris parce qu'il s'est passé quelque chose à 7000 km d'ici, quasiment à l'autre bout de la planète, à Karachi, dans une ville assez importante du Pakistan. Une ville où se trouvaient vos pères.
Alors mon père s'appelait Jean-Yves Leclerc, il était mécanicien dieseliste pour la DCN, il y était rentré très jeune. C'est la grosse entreprise, on va dire, de Cherbourg, et qui était une industrie d'État à l'époque de l'attentat. Donc il est parti à Karachi sur la base du volontariat pour améliorer les finances familiales et entre autres financer les études de ma sœur comme il l'avait fait pour moi. Et dans le cadre du transfert de technologie qui avait été mis en place par la direction des constructions navales autour des sous-marins Agosta. C'était quelqu'un de simple et qui le revendiquait. C'était quelqu'un qui était fier de son statut d'ouvrier. J'ai appris après sa mort, de la bouche de ma mère, en fait, que quelques mois auparavant, papa avait sauvé la vie d'une personne âgée au port de Carqueville, où il avait ses habitudes, puisqu'il y avait un bateau. Il nous en avait même pas parlé à nous, parce qu'en fait, il aimait pas se mettre en avant. C'était quelqu'un de simple, quoi, qui aimait vivre dans son quartier, qui aimait la nature, qui aimait la pêche, qui aimait passer du temps en famille, qui aimait les autres, quoi, tout simplement. Voilà.
Votre vie bascule le 8 mai 2002, il y a 8 ans de ça.
Alors c'est ma mère en fait qui a entendu l'annonce de l'attentat à la radio assez tôt dans la matinée. Elle a attendu 8h30, 9h également pour me prévenir par téléphone. C'est vrai que sur le coup, j'y ai pas cru. Je pensais qu'on aurait des informations plus personnelles de la part de DCN s'il y avait eu réellement quelque chose. Et en allumant la télé, effectivement, j'ai vu les dépêches tomber qui se faisaient de plus en plus précises, la DCN, les ouvriers, le bus. Et donc a commencé une attente assez longue et assez cruelle, durant laquelle on a essayé de joindre plusieurs interlocuteurs, que ce soit la préfecture, la cellule de crise, l'ambassade du Pakistan, l'hôtel au Pakistan. Personne ne savait, ou en tout cas beaucoup nous disaient ne pas savoir, et qu'il fallait attendre sagement l'arrivée des officiels de la DCN qui faisaient le tour des familles décédées. Donc en ce qui nous concerne, ils sont arrivés vers midi et quart, je crois, chez ma mère et ma sœur. Bon, ils n'ont pas eu besoin de parler, elles ont tout de suite compris que c'était terminé.
La France était-elle expressément la cible ou s'agit-il d'une attaque contre la coalition à travers l'un de ces pays?
TF1, 9 mai 2002.
La question demeure chez les enquêteurs, car ce n'est pas le premier attentat anti-occidental au Pakistan ces derniers mois. Depuis, les Américains s'étaient mieux protégés ou ont quitté le pays. Le bus des Français était peut-être une cible simplement plus facile. Des groupes islamistes ont pu vouloir à la fois déstabiliser le Pakistan et frapper un pays de la coalition.
Dès les premières minutes avec la direction des constructions navales, dès les premières rencontres avec les officiels, comment ils expliquent cet attentat?
Alors là, ils ont été tous très unanimes. C'était Al-Qaïda, une frappe aveugle, et d'ailleurs qui n'était même pas destinée aux Français, puisque globalement, certainement qu'Al-Qaïda s'était trompé de cible.
Ah bon, Ben Laden, il avait fait une petite erreur, il avait confondu des Français avec des Américains.
Voilà, alors il est vraiment pas très judicieux, hein, si vraiment il a fait une erreur, parce que quand même un bus rose marqué Pakistan Navy, en gros, je crois qu'il n'y avait que les Français qui circulaient de cette manière à Karachi, puisque justement il n'y avait que les Français, enfin que la DCN, pour ne pas avoir pris des solutions un petit peu plus lourdes pour sécuriser ces expatriés.
Quand on vous dit c'est Al-Qaïda, mais Ben Laden s'est trompé de cible, il a visé des Français à la place des Américains. Vous...
Dans un premier temps, il faut se dire que c'était quand même quelques mois après les attentats du 11 septembre. C'était le Pakistan, donc avec, on le sait, c'est quand même un bon vivier de terroristes islamistes. On y a cru. Dans un premier temps, on y a cru, les premiers jours en tout cas. Et puis petit à petit, quand même, on a trouvé que c'était un peu étrange, parce que Al-Qaïda qui se trompe de cible, bon, c'est un peu bizarre. Al-Qaïda, ils avaient quand même l'ambition, si je puis parler ainsi, de faire plus de victimes, alors que là, le nombre de victimes potentielles, c'était une quarantaine de personnes. Et puis surtout, contrairement à ce qui a été dit dans la presse, Ben Laden n'a jamais revendiqué l'attentat. Il s'est juste félicité des actes terroristes, dont Karachi, mais c'était parmi d'autres. Il n'y a jamais eu de revendication officielle.
Là, naissent les premiers doutes.
Naissent les premiers doutes, voilà. Donc ça, c'est les premiers doutes qui concernent donc l'enquête en elle-même. Ensuite, il y a eu un certain nombre d'éléments dans le dossier, comme par exemple des contradictions sur la nature de l'explosif, que Jean-Luc Bruguière n'a pas cru bon de relever, hein, tout de même, mais qui nous ont mis un petit peu aussi la puce à l'oreille. Et puis, l'élément aussi important dans notre prise de conscience, ça a été la manière dont on a été géré. À un moment donné, on s'est dit, mais quand même, pourquoi est-ce que nous, finalement, victimes, alors qu'on ne demande pas grand-chose à part être tenus au courant des avancées de l'enquête, pourquoi est-ce qu'on est traité de cette manière? Et on a commencé à sentir que quelque part, c'était pas normal, quoi, ce qui nous entourait.
Il y a une phrase, lors de la cérémonie officielle à Cherbourg, il y a une phrase de Jacques Chirac, qui est à l'époque président de la République, et qui dit « Nous ne céderons ni à la menace, ni au chantage ».
Pourquoi parler de chantage? Pourquoi adresser ce message au public alors que finalement, globalement, Al-Qaïda, ils font pas vraiment du chantage, quoi. Ils se contentent de faire des actes terroristes, de semer la terreur et point à la ligne. Mais ce qui est grave, c'est que ça signifie que le 13 mai 2002, soit quelques jours juste après la mort de nos pères, c'est-à-dire qu'à quelques mètres du cercueil de ces 11 morts, Jacques Chirac, il envoyait un message et il savait déjà, finalement, que peut-être l'arrêt du versement des commissions qu'il avait lui-même décidé en 1995 était la cause. Bah, du carnage que, que, ben voilà, que les salariés de la DCN ont subi et que les familles subissent toujours. Ouais. Et ça, on comprend qu'en 2008, quand il y a donc un...
Dans un premier temps, tout va bien. C'est-à-dire, c'est Al-Qaïda. Et d'ailleurs, on arrête des gens au Pakistan et on les condamne à mort.
Oui, il y a eu un procès assez ubuesque, hein, puisque au final, enfin, nous, on avait des informations par une personne qui nous traduisait des journaux locaux pakistanais.
J'ai deux citations de journaux pakistanais. L'avocat d'un des accusés s'est fait poignarder dans l'enceinte de la prison.
Oui.
Donc c'est quand même, enfin en tout cas en France, c'est assez rare que l'avocat, un avocat se fasse poignarder tranquillement dans l'enceinte d'une prison. L'un des accusés est introuvable dans la prison. Donc ça, c'est quand même assez inédit aussi. Alors peut-être que les prisons pakistanaises sont particulières, mais c'est quand même assez inédit qu'on ne parvienne pas à retrouver un détenu dans une prison.
Oui, oui, c'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit, décidément, ce Pakistan, c'est quand même très particulier. Et les prisons pakistanaises, ça doit vraiment être quelque chose pour en arriver là. Donc on a été effarés. Je crois que ça rajoute un peu au côté rocambolesque de ce procès qui s'est fini donc, en appel en 2009 avec la relaxe des deux condamnés à mort.
Mais alors, dans un premier temps, quand il y a la condamnation à mort des Pakistanais qui appartiendraient au réseau Ben Laden, là, vous êtes soulagés, vous dites, ça y est, la vérité a éclaté, justice est faite.
Non, on ne l'a pas pris comme ça. On s'est dit, ils ont arrêté des personnes. On espère que c'est les bonnes. Enfin, c'est quand même un pays aussi particulier, le Pakistan. Donc, on n'a pas pris pour argent comptant tout ce qui nous a été raconté dans le cadre de ce procès. On avait déjà des doutes à ce moment-là. Voilà. Donc, on ne l'a pas pris comme une victoire. Pas du tout même.
Et les doutes, ils sont nés de où alors ?
Les doutes, ils sont nés finalement par l'insistance qu'ont eu les officiels à nous dire « ça ne peut être qu'Al-Qaïda », alors qu'il y avait un certain nombre de pistes qui germaient dans l'esprit d'autres personnes. Il ne faut pas oublier non plus que DCN allait fournir de l'armement aussi à l'Inde, qui est quand même l'ennemi juré du Pakistan. Donc il y avait d'autres pistes, après tout, qui pouvaient être aussi crédibles qu'Al-Qaïda. Et quand j'ai posé d'ailleurs la question une fois au juge Bruguière, déjà son regard assez méprisant au moment de ma question a eu vite fait de me calmer, mais en gros, c'était du n'importe quoi. Voilà, c'était du n'importe quoi. Pour ce qui est de ma famille, ma mère continue d'envoyer régulièrement des courriers au chef de l'État, à Michel Alliot-Marie, à leur ministre de la Défense. Mais au final, rien d'efficace.
Le basculement commence par un changement de juge d'instruction, finalement.
Oui, il faut savoir que c'est un changement dont on n'a pas été informé. Mais pour nous, ça a été absolument providentiel. Alors, on s'en est aperçu quand on a rencontré pour la première fois le juge Trévidic. Rien à voir avec les auditions auxquelles nous avait conviés le juge Bruguière. Bon, déjà, c'est parti de sa propre initiative, alors que pour rencontrer Bruguière, il fallait quand même mettre le paquet. Il est venu à Cherbourg. Il a souhaité rencontrer les familles à Cherbourg, puisque la plupart des décédés étaient originaires de là-bas. Donc, on a, bien qu'au départ, on ait eu peur que ce soit pour nous annoncer un classement de l'affaire, on a été touchés finalement de cette marque de respect, enfin d'humanité. Et puis même dans son attitude et son comportement, c'est quelqu'un de très pédagogue qui voulait vraiment expliquer les choses de manière mesurée, de manière argumentée. Quelqu'un à qui on peut poser des questions facilement. Je crois que c'est juste un juge droit dans ses bottes, doué d'une grande humanité et qui a envie de nous aider à obtenir ce qu'on cherche depuis le début, la vérité.
Alors lui aussi, quand il vous a vu, il vous a dit il n'y a qu'une piste, c'est Al-Qaïda.
Ah non, il nous a simplement dit que la piste d'Al-Qaïda, quelque part, elle était mise en sommeil, qu'il n'y avait pas vraiment de légitimité à la poursuivre. Et il nous a plutôt parlé donc de la piste de l'arrêt du versement des commissions qui pourrait être la cause possible de l'attentat. Et il l'a qualifié, et ce sont ses mots, lors de notre audition, de cruellement logique.
Alors donc là, il y a un rapport qui sort, qui est le rapport Nautilus. On nous dit que c'est rédigé par un ancien agent de la DST, donc c'est-à-dire des services secrets français. Et on lit ceci dans le rapport rédigé par cet agent des services secrets. Après des contacts tant en Europe qu'au Pakistan, nous parvenons à la conclusion que l'attentat de Karachi du 8 mai 2002 a été réalisé grâce à des complicités au sein de l'armée. Il s'agissait d'obtenir le versement de commissions non honorées et promises lors de la signature du contrat de septembre 1994. Quand vous lisez ça...
Le choc. Quand on lit ça, c'est le choc parce que je pense qu'on ne pouvait pas s'imaginer non plus que ça pouvait être aussi dégueulasse que ça. Nos pères étaient citoyens français et quelque part imaginer que c'est dans les plus hautes sphères politiques françaises que l'on peut trouver le mobile de l'attentat, ça fait mal quelque part. C'est qu'on a l'impression qu'en fait, on les a envoyés se faire tuer pour des histoires de gros sous et des histoires de guerre politique en France. C'est C'est difficilement supportable parce que je crois qu'on avait une vision de l'État qui était un peu différente. On voyait les politiques comme des personnes qui étaient là pour le bien-être et la sécurité du peuple français. Là, on s'aperçoit qu'il est possible qu'ils aient été tués finalement à cause de leur magouille.
Guerre politique en France entre la droite et la droite, entre Villepin et Sarkozy, entre Balladur et Chirac. Quant à l'histoire des gros sous qui sont évoqués, bien évidemment que le pouvoir est lié à l'argent, en ce que l'argent est nécessaire, de plus en plus nécessaire aujourd'hui pour atteindre le pouvoir, pour occuper le pouvoir. Et Michelet disait au 19e siècle, la politique, c'est l'art d'obtenir de l'argent des riches, d'une part, et d'autre part, des suffrages des pauvres, sous prétexte de les protéger les uns des autres. Voilà ce qu'évoque très rapidement, au fond, cette histoire, ce Karachi-Guette, qu'évoque les filles des victimes. Auteur E.S. de « On nous appelle les Karachi ».
Alors, là, il y a le Parisien sur la table. Et en page, c'est le Parisien du jour, donc du 10 novembre 2010. Il y a un article. Karachi, les députés ne transmettront rien à la justice, avec une photo de Bernard Accoyer, le président de l'Assemblée.
Le juge Trévidic a demandé à ce qu'on lui transmette les 62 auditions qui ont eu lieu dans le cadre de la mission d'information parlementaire. Et ça lui a été refusé donc, par Bernard Accoyer de l'Assemblée nationale. C'est toujours le fameux principe de la séparation des pouvoirs. Nous, on considère que ces arguments ne sont pas valables, tout simplement, et que c'est à nouveau une tentative d'obstruction.
Donc là, maintenant, c'est Bernard Accoyer qui refuse de transmettre les documents. Mais il y avait déjà eu Christine Lagarde auparavant. Il y avait déjà eu le ministère de la Défense. Il y a eu la direction des constructions navales.
Ben oui, je trouve qu'ils font front, tous ces gens très importants. Pourtant, face à six petites familles de victimes cherbourgeoises issues du milieu ouvrier, n'importe qui en France a le droit à la justice et à savoir pourquoi il s'est fait voler sa mobylette, pourquoi il s'est fait agresser. Et là, on a quand même 11 morts et tout le monde nous met des bâtons dans les roues pour qu'on puisse pas accéder à la vérité. Pourquoi est-ce que leur carrière serait plus importante que nos vies à nous, quoi ? C'est pas parce qu'on est des petites gens qu'on n'a pas droit à... Moi, personnellement, leur fonction, je m'en fous. Je pense que je leur ai fait comprendre depuis longtemps. Leur fonction, ça ne m'impressionne pas, quoi. Voilà, tout simplement. S'ils ont fait des actes répréhensibles par la loi, mais qui les assume ? Moi, quand je me prends un PV pour non-stationnement, je le paye et je râle pas.
Et quand vous les voyez à la télévision, ces grands hommes, Édouard Balladur, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, qu'est-ce que vous éprouvez ?
Eh bien, je suis fière d'avoir eu un père comme j'ai eu, comme le mien, parce que c'était peut-être qu'un ouvrier, mais c'était quelqu'un de droit dans ses bottes, on ne peut pas en dire autant d'eux.
C'est un secret d'État. Une aéronome. Tout ce mystère est un miroir pour Jean Descoeur. C'est un secret d'État. Chut, chut, chut. Une affaire d'honneur. Chut, chut, chut. Honte sur qui raconte ce dont il fut le spectateur ou l'acteur. Écoutez, escoutez, frottez et tapez. Dépillons ce qui est louche. Ouvrons l'œil, fermons la bouche. Visitons, inquiétons. Fermons tout, faisons tout, voyons tout, voyons tout. Et surtout n'ayons pas peur de tous les pièges trompeurs. Précision, précision, cohésion, cohésion. Profitons des aléas, grimpons comme des boas. Descendons du haut en bas, et celui qu'on trouvera, il sera fait comme un rat. Rat, rat, rat. C'est un secret d'état. Tout ce mystère est un miroir pour Jean Descoeur. C'est un secret d'État. C'est un secret.
secret d'État.
Secret d'État. Le juge d'instruction Marc Trévidic, qui enquête sur l'attentat de Karachi, est bloqué.
BFM.
À trois reprises, il a demandé à avoir accès aux documents de la mission parlementaire.
10 novembre 2010.
Plus de 60 personnes auditionnées, comme l'ex-premier ministre Édouard Balladur, suspecté d'avoir touché des rétrocommissions pour financer sa campagne en 1995. Bernard Accoyer, le président de l'Assemblée nationale, refuse de transmettre ses pièces à la justice au nom de la séparation des pouvoirs. Et cet après-midi, il tente de se justifier.
L'Assemblée nationale n'a strictement rien à cacher. J'ajoute que le juge peut auditionner tous ceux ou celles qu'il voudrait auditionner, d'autant que tout est dans le rapport.
Alors, Monsieur Cazeneuve, vous êtes député maire de Cherbourg. On est dans votre bureau ici à l'Assemblée nationale. En juillet 2009, vous êtes à l'initiative de la création d'une commission d'information sur les circonstances entourant l'attentat de Karachi. Alors, la création de la mission d'information va se faire sans difficulté ?
Non, ce sera très difficile, parce que très rapidement, on nous sort l'ordonnance qui va bien, qui dit que le Parlement ne peut pas enquêter sur des sujets sur lesquels une procédure judiciaire est en cours, que compte tenu de la sensibilité du sujet et de la volonté qu'auraient les pouvoirs institués, c'est-à-dire le Parlement avec sa majorité et le gouvernement, de laisser le juge faire son travail, on ne saurait le perturber en créant une mission d'information. Une fois que ces arguments, nous arrivons à les contredire avec suffisamment de pertinence, là, le président de l'Assemblée nationale nous dit non, non, tout ça n'est pas possible, c'est une affaire de la Commission de la Défense, à laquelle éventuellement pourrait s'adjoindre la Commission des Affaires étrangères. Le président de la Commission des Affaires étrangères refuse.
La création a posé des difficultés, mais ensuite les auditions vont se dérouler sans entrave.
Très vite, des tensions sont apparues entre le gouvernement et la mission, et au sein de la mission, entre la majorité et l'opposition. Bon, d'abord parce que le gouvernement n'a pas communiqué les documents que nous lui demandions, et je dirais même qu'il a usé de 1000 stratagèmes pour ne pas le faire. J'ai demandé toute une série de documents, et à ce moment-là, on a vu tout un stratagème se mettre en place, avec un gouvernement qui n'a pas répondu pendant plusieurs semaines. Et donc nous avons été obligés de conduire nos investigations à partir des seules auditions auxquelles nous procédions.
C'est-à-dire, le gouvernement ne vous a presque rien transmis ?
Quasiment rien. Le Quai d'Orsay a dû me transmettre une revue de presse franco-anglaise. C'était une première que de voir le gouvernement déclassifier les journaux. Le ministère de la Défense a dû nous transmettre entre octobre et décembre une chronologie des faits et rien d'autre. Et nous n'avons rien obtenu quasiment du ministère des Finances. Et nous avons même reçu une lettre du ministre des Finances qui s'opposait à l'audition des collaborateurs de Bercy sur ce sujet.
C'est-à-dire une lettre de Christine Lagarde qui refuse que les fonctionnaires du ministère des Finances soient entendus par votre mission d'information.
C'est-à-dire aucun document déclassifié, très peu de documents transmis, des documents qui n'ont aucun intérêt. Et troisièmement, le gouvernement refuse de nous autoriser à procéder à l'audition de ses collaborateurs. Voilà ce qui s'est passé. Et lorsque nous avons fini notre travail, sans aucune coopération du gouvernement, et que le juge d'instruction, dont on a dit vouloir faciliter la tâche, demande à obtenir le verbatim de nos auditions, alors là, on lui oppose de nouveau la séparation des pouvoirs et le secret des délibérations parlementaires.
C'est-à-dire que même
il y a un véritable dévoiement du principe de séparation des pouvoirs qui vise à empêcher à la fois le travail du juge et le travail de contrôle du Parlement pour ne protéger qu'un pouvoir institué, qui est le pouvoir exécutif.
Pour conclure, quand on voit la difficulté que vous avez eue pour créer cette mission, pour entendre des témoins, pour vous faire transmettre quelques documents et ensuite pour pouvoir faire lire ces auditions au juge d'instruction, on se dit que pour ce juge d'instruction-là, justement, pour qu'il puisse faire la lumière sur cette affaire et que justice soit rendue, il y a du chemin.
Et vous avez sans doute remarqué que lorsque le juge Van Ruynbeck prend une ordonnance par laquelle il se déclare compétent pour instruire la plainte des familles, immédiatement le parquet, qui est aux ordres, fait appel de cette ordonnance pour empêcher le juge d'instruire. Donc, on a un Parlement qui ne peut pas enquêter. Sur les affaires les plus sensibles, on a difficulté à obtenir la nomination de juges d'instruction indépendants. Et quand ils sont nommés, ils ne peuvent plus instruire. On essaie de les empêcher d'instruire. Vous voyez, le parcours du combattant, il faut, pour aller à son terme, une sacrée santé. Hein,
ministre de la Défense comme moi-même,
Nicolas Sarkozy,
sommes décidés à ce que tous les documents qui seront demandés
22 novembre 2010
soient communiqués en temps et heure. À ma connaissance aujourd'hui, pas un document n'a été refusé. Voilà. Et je n'entendrai pas une polémique qui n'a pas lieu d'être. La justice est saisie, qu'elle fasse son travail. Naturellement, l'État aidera la justice en lui communiquant tous les documents dont il aura besoin, dont elle aura besoin, la justice. Je n'ai pas d'autres commentaires à faire. Tout le reste, on voit bien que ce n'est rien d'autre que de la polémique.
Franchement, c'est ridicule. Enfin, écoutez, c'est ridicule. Franchement, monsieur, franchement, c'est ridicule. Franchement, c'est ridicule.
C'était une nouvelle version du reportage de François Ruffin, Karachi Gate, Karachi expliqué à ma mère, diffusé en novembre 2010. Merci à Magali Drouet, Gilles Sanson et Bernard Cazeneuve. Pour en savoir plus sur le sujet, vous pouvez lire « On nous appelle les Karachi » de Magali Drouet et Sandrine Leclerc aux éditions Fleuve Noir, ainsi que le contrat « Karachi, l'affaire que Sarkozy voudrait oublier » de Fabrice Arfi et Fabrice Lhomme aux éditions Stock. Demain mardi, deuxième volet sur ce sujet avec François Ruffin. Vous retrouverez toutes ces informations sur le site de France Inter, à la rubrique émissions, là-bas si j'y suis, et sur le site la-ba.org. À la technique, aujourd'hui, Pascal Baldassari et Eric Lalanne. Réalisation, Bertrand Chometon et Franck Adhérer. Assistante, Marina Touyez. Et c'est Grégory Salomonovitch qui attend vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Fonds retraite, vous connaissez ?
Dans quelques instants, découvrez la solution retraite complémentaire sécurisée qui peut vous changer la retraite.
Préfonds retraite.
Bonjour, Emmanuel de Tabac Info Service.
Oui, bonjour, je vous appelle parce que je fume près d'un paquet par jour et je me demandais s'il y avait des risques pour mon mari qui ne fume pas.
Ah oui, vous augmentez de 25% son risque d'avoir un cancer du poumon. C'est peut-être une bonne raison pour arrêter.
Oui, mais j'ai déjà essayé, mais j'y suis jamais arrivée en fait.
Oui, mais si vous n'avez pas réussi avant, ça ne veut pas dire que vous ne réussirez jamais.
Ah oui, c'est vrai.
Vous voulez arrêter de fumer ? Appelez Tabac Info Service au 39 89 et bénéficiez des conseils personnalisés d'un tabacologue. 39 89, un service de l'INPES et du ministère de la Santé. 15 centimes la minute.
Mêlée pour le 15 de France, tout près de la ligne d'essai, les avant-français poussent, le ballon sort, le demi de mêlée français s'échappe vers la ligne d'essai qui... Oh là là, quel... Il s'est fait aplatir comme une crêpe. Aïe, 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 là, je peux vous dire qu'il n'y a pas que les bonbons qui font tomber les dents. Hein.
Si la GMF assure le 15 de France depuis plus de 25 ans, vous pouvez sûrement lui faire confiance pour votre assurance santé. Et en ce moment, profitez de moins 15% sur votre complémentaire santé GMF pour toute souscription avant le 31 octobre. Conditions en agence ou sur gmf.fr. GMF, assurément humain.
Préfonds retraite, vous connaissez ?
Oui, c'est le numéro 1 de la retraite complémentaire facultative de la fonction publique.
Aujourd'hui, nos experts vous conseillent au 30-25 pour vous préparer des revenus à vie sécurisés et bénéficier d'une fiscalité avantageuse.
Qui ? Moi ?
Oui, vous ! En France, 10 millions de personnes peuvent en profiter. Appelez vite le 30-25.
Préfonds retraite.
30-25, appel gratuit depuis un poste fixe.
Après le journal Carrefour de l'Odéon, vous écoutez France Inter, il est 16h, passé de 15 secondes. Le flash Laetitia Gaillet.
David Douillet, nouveau ministre des Sports, il vient d'être nommé en lieu et place de Chantal Jouanneau qui a décidé, elle, de démissionner aujourd'hui après son élection hier au Sénat. L'ancien judoka occupait jusqu'ici le poste de secrétaire d'État aux Français de l'étranger. Gérard Longuet lui restera au ministère de la Défense. Il ne participera donc pas samedi à l'élection du président du Sénat. Gérard Larcher est candidat à sa succession, mais fort de sa victoire hier, la gauche entend mettre à la tête du Sénat l'un des siens, Jean-Pierre Bel, président du groupe PS à l'Assemblée, ou plutôt au Sénat, et Catherine Tasca, ancienne ministre socialiste, sont tous deux candidats. Le PS décidera demain qui des deux ira à la bataille. La date a été fixée, le premier procès dans l'affaire Mediator aura lieu le 14 mai prochain. Le médicament, vous le savez, est soupçonné d'être à l'origine de la mort de plusieurs centaines de personnes en France. Mais les avocats des laboratoires Servier espèrent bien empêcher la tenue du procès. Ils souhaitent que les affaires soient regroupées et si la Cour de cassation leur donne raison, alors il n'y aura pas de procès. En tout état de cause, pour les avocats des victimes, un premier pas a été franchi dans cette affaire aujourd'hui. C'est l'avis de Maître Charles-Joseph Houdin.
Très bon calendrier. Le tribunal a maintenu le calendrier qui avait été fixé au printemps, c'est-à-dire qu'un procès aura lieu avant l'été 2012, avec une incertitude de savoir ce que la Cour de cassation va décider. Il faut savoir que la Cour de cassation s'est déjà prononcée sur cette question, ou presque la même, et a décidé au mois de juin que la procédure était engagée à Nanterre, et valablement engagée à Nanterre, et que la procédure resterait à Nanterre. Il est fort probable que la Cour de cassation rejette les arguments soulevés par les laboratoires Servier. L'objectif des laboratoires Servier, c'est de faire durer les procédures et que tout soit regroupé à Paris pour qu'un procès intervienne dans 2, 3, 4, 5 ou plus. L'impératif pour les victimes, c'est qu'un procès ait lieu très rapidement. Elles n'ont pas le temps d'attendre. Il existe un réel risque pour elles qu'elles ne soient plus en vie dans 5 ou 10 ans pour qu'un procès puisse avoir lieu.
Des propos recueillis par Sophie Parmentier. Les billets d'avion pourront bientôt coûter plus cher. La Commission européenne étudie actuellement la question. Il s'agit d'aider les compagnies aériennes européennes à financer leur contribution contre le réchauffement climatique. Ces compagnies desservant l'Union seront en effet contraintes l'an prochain de payer un dédommagement pour 15% de leurs émissions de CO2. Bruxelles a évalué le coût de l'augmentation du prix du billet entre 2 et 12 euros pour un vol, le double pour un aller-retour. Et à propos de pollution de l'air, plus de 2 millions de personnes sont victimes chaque année dans le monde de la pollution de l'air. C'est le résultat d'une étude aujourd'hui de l'Organisation mondiale de la santé. Sur ces 2 millions, plus de la moitié meurt suite à la pollution dans les villes. Et ça touche autant les pays développés que ceux en voie de développement. Cérémonie de recueillement aujourd'hui au Sénégal, 9 ans après, les familles des 1863 morts dans le naufrage du ferry Le Jola se sont retrouvées près de Dakar notamment. Des prières, des marches silencieuses et des dépôts de gerbes étaient organisés. Parmi les victimes du naufrage du ferry sénégalais en 2003, il y avait plusieurs Français. Leurs familles attendent maintenant la tenue d'un procès en France où une instruction a été ouverte en 2003. Vous écoutez France Inter, il est 16h03.
Chers amis, bonjour, c'est Nicolas Stoufflet. Nous enregistrons le jeu des 1000 euros dans le Maine-et-Loire. Aujourd'hui, à Beaufort-en-Vallée, à 18h30. Et demain, mardi, à Juvardeil, également à 18h30. Les sélections se font sur place à la même heure.
Tous les dimanches, okay. À 20h10, ouais, voilà. Le masque et la plume.
Il est sévère.
Ah non.
Jérôme Garcin.
Rien à ajouter, non.
Littérature.
Je ne l'ai pas accablé.
Attends une seconde. Cinéma. C'est ça qui est intéressant dans le film. Il nous renvoie
ça
une image.
Ça m'avait échappé.
Théâtre. Laissez-moi quoi. Terminer. Jacques.
Franchement, quand le rideau est tombé, on avait l'impression que ça allait commencer enfin.
Pour assister à l'enregistrement du prochain masque et la plume.
Pardon.
Oui, mais non.
Rendez-vous jeudi dès 19h dans le grand hall de la Maison de Radio France.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. France Inter. La différence.
Bonjour Frédéric Lodéon.
Bonjour Laetitia. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous. Cette semaine, j'ai pu assister à deux événements tout à fait différents. En fait, c'était pendant le week-end, mais bon, voilà. Vendredi, on a présenté à Paris, dans un bel hôtel, un violon de Stradivarius. C'est toujours un événement qui a été acheté par un grand homme d'affaires, monsieur Bernard Magret, qui possède des châteaux dans le Bordelais, entre autres, bien sûr, dans un but tout à fait louable, c'est-à-dire c'est de prêter ce violon à de jeunes artistes. Et il a dit, je trouve ça très beau d'ailleurs, que vu toute sa carrière, tout ce qu'il avait fait, maintenant, il était en âge de donner, parce qu'il avait beaucoup reçu à 75 ans, donc de se tourner vers les jeunes. Alors, on a pu entendre ce violon. Évidemment, il est magnifique, il a été authentifié de plus. Mais je me souviens de cette plaisanterie assez répandue, mais qui est sur une histoire vraie, partie d'une histoire vraie. Yasha Heifetz, un jour, jouait dans une petite ville, le grand violoniste, avec un très beau violon, peut-être de Stradivarius ou de Guarnerius. Et un auditeur, un tout petit peu familier, s'approche. Il dit, votre violon sonne très bien. Et Yasha Heifetz lui dit... Bah, essayez-le. Il lui tend le violon. Et l'autre, évidemment, a compris la bêtise qu'il avait dite. Parce que s'il l'avait pris, ce violon, il n'aurait pas sonné de la même manière. Il y a une autre façon de raconter l'histoire. Heifetz prend son violon, il le secoue près de son oreille, il dit, moi, j'entends rien. Mais c'est vrai que le violon, sans le violoniste, ça n'est rien. Néanmoins, un très bel instrument, c'est toujours un atout. Alors, ce Stradivarius, qu'on va connaître maintenant sous le nom de Fombroge, du nom du château Fombroge qui appartient à Bernard Magret, eh bien, il est parmi les instruments en vue en ce moment. Il va d'ailleurs être confronté aux instruments russe, par exemple, il y a un Stradivarius au Bolchoï. Alors bientôt, en octobre, on va aller faire un petit concours entre tous ces instruments, un instrument venant de Leningrad aussi peut-être. Bon, l'instrument, c'est beau, quand il est en bonne main, vous l'avez compris, et on sait que Pierre Amoyal joue un Stradivarius fameux, un instrument qui lui a été volé, qu'il a retrouvé, qui a été l'objet carrément de tout un feuilleton presque policier, même tout à fait, parce qu'il y a même eu un mort dans l'affaire. Bref, c'est le talent qui compte quand même avant tout. Voici Pierre Amoyal et son Stradivarius dans le final du troisième concerto pour violon de Camille Saint-Saëns.